Vous écoutez On lit pour vous.
Les employeurs auraient intérêt à mieux accepter la neurodiversité dans leurs équipes. Un texte de Radio-Canada, paru le 27 octobre 2024 dans Ici, Toronto. Les personnes neurodivergentes sont souvent, et depuis longtemps, accusées à tort de paresse ou de procrastination au travail, relèvent des spécialistes du sujet. Ces derniers insistent sur le fait que ces personnes ont une façon de penser atypique et que les entreprises auraient tout intérêt à mieux les prendre en compte. Rebecca Shaw a été diagnostiquée autiste, ce qui l'a aidée à comprendre comment fonctionne son cerveau et la façon différente dont elle pense, dit-elle. Mais lorsqu'elle a partagé son diagnostic avec un employeur, peu de temps après, elle a perdu son emploi. Puis, à nouveau, dans un poste similaire, elle a été licenciée. Les deux fois, j'étais manifestement insatisfaite. J'avais des difficultés. Je demandais de l'aide, mais je n'en recevais pas, témoigne-t-elle. Elle pense que son responsable trouvait ses besoins d'accommodement trop difficiles à gérer. Qu'est-ce que la neurodivergence? Un terme large utilisé pour décrire les personnes atteintes de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, celles qui sont sur le spectre de l'autisme ou celles ayant un handicap affectant leur capacité à se concentrer ou à retenir des informations. Les défis de Mme Shaw ne sont pas uniques. Les personnes neurodivergentes rencontrent souvent des difficultés supplémentaires au boulot, explique Margaret Gibson, professeure associée en études de développement social et travail social à l'Université de Waterloo. Elles peuvent aussi avoir des difficultés dans leurs comportements sociaux et leur communication. Des actions que beaucoup considèrent comme allant de soi, écrire un courriel, rester assis dans une réunion ou participer à des discussions générales au bureau peuvent s'apparenter à des défis insurmontables. Cacher son diagnostic. Beaucoup d'adultes neurodivergents essaient de cacher leur diagnostic par peur d'être stigmatisés. Le stress au travail est probablement l'une des principales raisons qui pousse les gens à consulter, et c'est simplement l'un de ces éléments qui s'ajoute à tout le reste avec lequel ils doivent déjà composer dans leur vie, détaille Dori Zenner, une thérapeute de Toronto spécialisée dans le traitement et la défense des adultes neurodivergents. Être dans un environnement de travail entouré de nombreuses personnes peut être une source importante d'anxiété et cela peut être très accablant, ce qui rend plus difficile l'apprentissage, la concentration et le travail. Une citation de Dori Zenner, thérapeute. Nous travaillons souvent avec nos clients pour plaider en faveur de changements progressifs, dit Mme Zenner. Il peut s'agir d'un bureau privé, ou du moins isolé, afin de limiter les distractions. Les écouteurs à réduction de bruit sont un autre outil pouvant être utilisé, ajoute-t-elle. Selon le Centre de sensibilisation au TDAH du Canada, environ 2 millions de Canadiens, soit 5 % de la population, présentent une forme de neurodivergence. Ce chiffre serait en réalité plus élevé selon plusieurs experts. Des lieux de travail plus inclusifs. Depuis 9 ans, Tammy Morris est la responsable des centres d'excellence en neurodiversité de la société de conseil EY. Elle aide à définir la politique de l'entreprise et défend les travailleurs neurodivergents. La clé, selon elle, est de rendre le lieu de travail inclusif pour tout le monde afin que personne ne se sente ciblé. Tous les employés peuvent établir leurs conditions de travail, de sorte que personne n'a besoin de révéler qu'ils sont neurodivergents, que ce soit diagnostiqué ou non. De nombreux travailleurs neurodivergents excellent dans certaines tâches spécifiques, et les placer dans l'environnement adéquat peut devenir un atout compétitif, conclut-elle. Être clair sur ses besoins. Des initiatives comme celle d'EY peuvent être plus difficiles ou trop coûteuses pour les petites entreprises, tempère Dory Zimmer. Pour que de telles initiatives soient réalisables dans ces plus petites entreprises, les employés neurodivergents doivent clairement indiquer leurs besoins. Madame Zimmer et Gibson soulignent que la pandémie a montré que des structures de travail différentes peuvent fonctionner. Les entreprises reconnaissent que c'est une situation gagnant-gagnant quand elles peuvent s'adapter. Nous avons observé beaucoup d'employeurs dire soudainement « Peut-être que le travail que nous pensions devoir être fait en présentiel ne doit pas forcément l'être. Ce que les personnes neurodivergentes demandaient en fait depuis des années », raconte Margaret Gibson. Par exemple, certaines personnes travaillent mieux le soir, lorsqu'il y a moins de bruit. Ceux qui ont du mal à participer à des conversations sociales peuvent mieux travailler seuls. Mais d'autres, au contraire, ont besoin de cette interaction sociale et trouvent le télétravail trop contraignant. Quant à Rebecca Shaw, elle est devenue un soutien des personnes neurodivergentes sur leur lieu de travail. Elle prépare un doctorat et étudie comment les étudiants diplômés autistes identifiés tardivement vivent la culture académique. Avec les informations d'Adam Killick de CBC. C'était « Les employeurs auraient intérêt à mieux accepter la neurodiversité dans leurs équipes », un texte de Radio-Canada paru le 27 octobre 2024 dans Ici, Toronto.
Adultes qui intimident à l'école, plus d'un élève sur sept les subit, selon une chercheuse. Un texte de Dominique Scali, paru le 30 octobre 2024 dans TVA Nouvelles. Les profs qui crient et humilient les jeunes sont plus nombreux qu'on pense. Plus d'un élève sur sept ayant subi une forme de violence de la part d'un adulte à l'école, rappelle une chercheuse qui presse Québec de contrer cette maltraitance. Citation. Imaginez le sentiment d'injustice des jeunes qui se font réprimander, alors que quand un adulte fait la même chose, il ne se passe rien. Fin de citation, illustre Claire Beaumont, professeure à l'Université Laval. Depuis plus de deux semaines, le sujet continue de faire les manchettes en lien avec la suspension de 11 enseignants à l'école Bedford. Citation. Si on fait juste renforcer la laïcité à l'école, comme l'a proposé le gouvernement Legault cette semaine, on passe à côté de beaucoup de choses. Fin de citation, analyse Madame Beaumont. Citation. Il faut vraiment qu'on commence à considérer l'attitude des adultes dans les écoles comme quelque chose d'important. Fin de citation. Et bien souvent, cette attitude est déterminante dans le climat d'une école, ajoute-t-elle. Entre 2013 et 2019, son groupe de recherche a mené une étude visant à surveiller la violence dans les écoles québécoises. Près de 2 élèves sur 10 ont dit s'être fait crier ou sacrer après par un adulte au moins une fois pendant l'année scolaire 2018-2019, selon les données les plus récentes. Globalement, c'est 1 élève du primaire sur 6 et 1 sur 7 au secondaire qui a vécu au moins une forme de violence de la part du personnel scolaire pendant cette année-là, explique Mme Beaumont. Pas d'amélioration. Citation. Pour moi, ce n'est pas de l'intimidation, c'est de la maltraitance. Fin de citation, souligne-t-elle. Dans la dernière décennie, on a tellement parlé d'intimidation que la violence entre élèves a légèrement baissé entre le début et la fin de l'enquête. Mais la violence commise par les adultes, elle, n'a pas évolué, note Mme Beaumont. Non seulement on sait que ces gestes contre-productifs existent, mais on sait aussi pourquoi des enseignants, éducatrices ou autres intervenants les posent. Pas que culturel. Par exemple, certains vont crier et rabaisser les élèves en raison d'une tradition disciplinaire ou parce qu'ils sont convaincus que c'est la seule approche qui marche. Citation. Ce n'est pas que culturel. Fin de citation, souligne Mme Beaumont. Certains vont être agressifs parce qu'ils ne savent pas comment gérer une classe, ont un faible sentiment d'efficacité ou peinent à contrôler leurs propres émotions. d'où l'importance de bien accompagner les intervenants qui veulent s'améliorer, précise-t-elle. La première étape serait, selon elle, de rouvrir les fameux plans de lutte contre l'intimidation pour les rendre plus efficaces, notamment parce qu'ils sont actuellement appliqués à géométrie variable d'une école à l'autre. Des pommes pourries à la pelletée. De nombreux cas de professeurs problématiques ont été médiatisés dans les dernières années. En voici quelques-uns. Elle terrorisait les petits. En 2023, une enseignante de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été enregistrée en train de hurler sur ses élèves de première année de l'école des Grands Vents. Citation « Toi, écrase, ton comportement m'énerve, puis toi aussi. » Ellipse « Grouille, cibole, dépêche. » Ellipse « Là, ferme-la. » Fin de citation, peut-on l'entendre crier à tue-tête. Il associait islam et pédophilie. En 2022, un enseignant a tenu des propos islamophobes devant ses élèves de l'école secondaire Lavoie à Montréal, qui compte un grand nombre d'élèves de confession musulmane. Cette école fait d'ailleurs partie des trois établissements qui feront prochainement l'objet d'une enquête du ministère dans la foulée de l'affaire Bedford. L'enseignant Marc-Antoine Bouffard affirmait que l'islam, citation, est une religion qui promeut la pédophilie. Fin de citation, peut-on lire dans le rapport d'enquête à son sujet, dont le journal a obtenu copie. Il estimait, citation, mieux connaître l'islam que les musulmans eux-mêmes, fin de citation, et semblait, citation, adhérer à la théorie du grand remplacement, fin de citation, rapporte-t-on dans le document. Le comité d'enquête a conclu en 2023 qu'il avait commis une faute grave. L'avocate de M. Bouffard indique ne pas pouvoir commenter, le dossier étant devant le tribunal administratif du travail. Tu serais moins conne. En 2020, un collectif de jeunes a recueilli une soixantaine de témoignages contre un enseignant qui tenait des propos racistes et sexistes à l'école secondaire Henri Bourassa à Montréal. Citation « Si tu m'écoutais, tu serais moins conne. » Fin de citation, ce serait fait répondre une élève. Il aurait eu l'habitude d'insulter ses élèves, utilisant les termes « retardé »,« trisomique » ou « déficient ». Tu devrais aller à l'hôpital psychiatrique. En 2019, deux maires de Montréal ont dénoncé une enseignante de l'école secondaire Sophie Barra qui continuait de faire des crises de colère et de traiter ses élèves de « conne » et de « cave » malgré les plaintes. Citation « Tu devrais vraiment aller à l'hôpital psychiatrique. » Fin de citation, ce serait fait dire une élève. Dossier choc. En 2016, TVA diffusait un dossier choc sur des cas graves d'intimidation perpétrés par du personnel scolaire. Un père racontait par exemple que sa fille s'est enlevée la vie après avoir été intimidée par une surveillante et la direction à Sorel-Tracy. Citation « On avait fait un gros tapage avec ça à l'époque. Puis, plus rien. » Fin de citation, résume Claire Beaumont. C'était adulte qui intimide à l'école, plus d'un élève sur sept les subit, selon une chercheuse. Un texte de Dominique Scali, paru le 30 octobre 2024 dans TVA Nouvelles.
Peaufiner la mort programmée. Un texte d'Isabelle Haché, paru le 27 octobre 2024 dans La Presse. Ces dernières années, le gouvernement caquiste a lancé des campagnes publicitaires pour sensibiliser les Québécois à toutes sortes d'enjeux, du déclin de la langue française, bonjour hi, faucon pèlerin vraiment sick, à la lutte contre le racisme, salut, jeune noir assis sur un banc de parc qu'on appelle des amis québécois. Mais ne vous attendez pas à une campagne sur l'aide médicale à mourir, prévient Sonia Bélanger. Ça n'arrivera jamais. On ne se mettra pas à faire de la publicité à la télévision, lance la ministre responsable des aînés devant un latte qui refroidit lentement dans un chic café du centre-ville de Montréal. Je lui suggère qu'il serait important de mieux informer les Québécois sur les critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir, AMM, bientôt offerte aux personnes atteintes de démence. La ministre l'admet volontiers, mais insiste. On ne commencera pas à publiciser un traitement de soins de fin de vie. Ellipse. Il faut être prudent par rapport à ça. À bien y réfléchir, j'avoue que ça risquerait de mal passer. J'imagine la publicité. À partir du 30 octobre, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pourront faire leur demande anticipée d'AMM. N'attendez plus. Dépêchez-vous de la demander, vous aussi. Ça provoquerait sans doute un malaise pas mal plus grand qu'un faucon pèlerin, aussi sketch soit-il. N'empêche, cet élargissement de l'AMM aux personnes souffrant de démence, nombreux sont ceux qui l'attendaient avec impatience. La mesure fait largement consensus. 88% des Québécois y sont favorables. Selon les calculs de Gina Bravo, professeure à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, jusqu'à 70 000 aînés auraient l'intention de formuler une demande anticipée d'AMM. Ça ne veut pas dire que tous le feront, bien sûr, mais ça témoigne, disons, d'un certain engouement pour la mort programmée. L'empressement des Québécois n'a pas échappé à la ministre Sonia Bélanger. La loi devait entrer en vigueur en juin 2025, rappelle-t-elle. Nous avons décidé de devancer parce qu'il y a des attentes de la population. Des groupes d'usagers nous appellent toutes les semaines pour nous demander si ça s'en vient, la demande anticipée. Ça s'en vient, très vite. Maintenant, la question qui tue, si je peux m'exprimer ainsi, est-ce que ça s'en vient trop vite? Des médecins préviennent que le réseau de la santé ne sera clairement pas prêt. Certains d'entre eux font part de leurs dilemmes moraux. Administrer l'AMM à une personne souffrante qui la réclame de ses vœux, c'est une chose, disent-ils. Administrer le même soin à une personne qui n'a pas conscience de ce qui se passe, c'en est une autre. Le débat sur la demande anticipée, il a été fait, tranche Sonia Bélanger, une pointe d'exaspération dans la voix. Elle rappelle que des dizaines d'experts, médecins, juristes, éthiciens et autres, ont défilé devant une commission spéciale mise sur pied en 2021. Leurs réflexions ont guidé l'élaboration du projet de loi. On ne refera pas le débat. Ce n'est pas l'intention, je crois, des médecins qui ont pris la parole ces dernières semaines. Ils ne sont pas contre l'élargissement de l'AMM, en principe. Mais à l'approche du 30 octobre, ils se demandent comment procéder, en pratique. Je serai bientôt devant des demandes d'aide médicale à mourir anticipées et je n'ai pas les réponses. Et le diable est dans les détails, s'inquiétait par exemple le radio-oncologue Jean-Paul Bahari le 14 octobre dans la presse. Le détail, il est en train de s'écrire, assure Sonia Bélanger. On est en train de peaufiner les derniers éléments. Des capsules informatives à l'intention des professionnels sont en cours de création. Une tournée est prévue dans les régions du Québec. Que le réseau ne soit pas complètement prêt, c'est tout à fait normal. C'est un nouveau programme. La ministre ne craint pas l'engorgement du réseau. Il n'y aura pas des tonnes de monde, le 31 octobre, qui se bousculeront dans les bureaux de médecins pour faire une demande anticipée. Ça va être évolutif. Ellipse. Ça va prendre un an et demi, deux ans pour déployer la mesure. Si le gouvernement caquiste a mis le pied sur l'accélérateur en devançant l'entrée en vigueur de la loi, c'est pour répondre à des citoyens pressés par le temps comme Sandra de Montigny, figure de proue de la campagne pour le droit à la demande anticipée de l'aide médicale à mourir au Québec. Atteinte d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer, Sandra de Montigny s'est jurée de ne pas finir comme son père, attachée à son lit, dans l'indignité totale. Elle en a fait le combat de sa vie, ou plutôt de sa mort. Son cri du cœur a été entendu. Nous avons été nombreux à partager son soulagement quand le gouvernement a annoncé, début septembre, qu'il n'attendrait pas le feu vert d'Ottawa ni la modification du code criminel pour permettre les demandes anticipées d'AMM au Québec. Pour la femme de 45 ans, il n'est donc pas trop tard. Dès mercredi, elle pourra faire sa demande. Mais, encore une fois, le diable se cache dans les détails. Même si Sandra de Montigny fait une demande anticipée, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle recevra l'AMM un jour. La loi prévoit en effet qu'au moment d'administrer l'AMM, le médecin doit être convaincu que le patient inapte souffre et que cette souffrance est intolérable. J'ose donc poser cette question délicate à la ministre. Et si Sandra de Montigny, qui a milité pendant des années pour le droit de décider à l'avance du moment de sa mort, devenait ce qu'on appelle une démente heureuse? La question, bien sûr, est trop hypothétique et casse-gueule pour une ministre. Sans personnaliser le débat, répond Sonia Bélanger, supposons que vous ne reconnaissez plus vos enfants, mais que vous êtes heureux. Vous mangez quand les préposés vous aident à vous nourrir, vous chantez, vous riez. Le docteur David Lucier, un gériatre membre de la Commission sur les soins de vie, l'a mentionné à plusieurs reprises. Si un clinicien comme lui ne peut pas dire que vous avez des souffrances physiques et psychiques, il sera incapable de traiter. Pour lui, la question ne se pose pas. Le problème, c'est que pour d'autres médecins qui pratiquent l'AMM, la question se pose. Le docteur Georges L'Espérance, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, l'a répété à plusieurs reprises, lui aussi, dans les médias. À son avis, un dément heureux n'est plus la personne qui a fait la demande anticipée. Souffrance ou pas, le médecin traitant devrait respecter le souhait du patient d'autrefois, celui qui avait toute sa tête et administrer l'AMM. Ces débats philosophiques sont certes passionnants, mais tenus sur la place publique, ils sèment la confusion sur les demandes anticipées, d'où ma suggestion mal avisée à la ministre de lancer une campagne publicitaire avec un message clair. Pas d'AMM pour les déments heureux, c'est dans la loi. Sonia Bélanger préfère ne pas trop s'aventurer sur ce terrain miné. Je ne dirai jamais à un chirurgien cardiaque « Tu ne devrais pas faire cette technique-là, tu devrais faire l'autre technique. » Ellipse. Moi, mon message aux professionnels, c'est « Respectez la loi. » Après ça, il y a votre jugement clinique, vos connaissances particulières, mais respectez la loi. C'était « Peaufiner la mort programmée ». Un texte d'Isabelle Haché paru le 27 octobre 2024 dans La Presse.
Prévenir les suicides grâce au milieu de travail. Un texte de Catherine Charon paru le 30 octobre 2024 dans Les Affaires. Malgré une plus grande sensibilité à l'égard du bien-être des membres de leur personnel, peu d'entreprises en font suffisamment pour éviter que le milieu de travail serve d'outil de prévention au suicide. C'est ce que conclut Angelo dos Santos Soares, sociologue et professeur au département d'organisation et ressources humaines de l'Université du Québec à Montréal, lui qui a passé plus de 20 ans à s'intéresser à la santé mentale des travailleurs. Citation : On individualise trop les problèmes. C'est toujours une question de fragilité individuelle. Fin de citation, constate celui qui a mené 9 projets de recherche pour tenter d'identifier les sources de la détresse au travail. Une trop grande charge de travail, le peu d'autonomie, de reconnaissance, de coopération ou de justice organisationnelle, ou même des valeurs qui ne concordent pas avec celles de l'employé, sont tous des facteurs qui alimentent les idées suicidaires. Le harcèlement psychologique également. Citation. D'après les résultats de mes recherches auprès des ingénieurs, la charge de travail, le manque d'autonomie et de coopération dans le groupe expliquait 92%. Fin de citation. De ses pensées, par exemple, rapporte le chercheur. Angelo dos Santos Soares s'inquiète tout particulièrement des changements qu'il observe dans le monde du travail ces 40 dernières années, telle l'augmentation de la pression de performance sur la main-d'œuvre et l'adoption de pratiques de gestion qui la poussent à toujours en faire plus avec moins. Citation : Il faut changer l'organisation du travail, les pratiques de gestion, appelle-t-il. Elle est la source de ces dysfonctionnements qui nourrissent ces idées suicidaires. Fin de citation. passer à l'action. Pour éviter qu'un travailleur ne commette un geste irréparable, tous les employeurs devraient s'informer. Citation. Beaucoup vont penser qu'il n'y a pas d'idée suicidaire dans leur équipe et se demandent donc pourquoi intervenir. Si les gens ne connaissent même pas les symptômes, on ne pourra pas faire de prévention. Ellipse. Personne n'est à l'abri. Fin de citation. Angelo dos Santos Soares encourage les entreprises à parler de suicide et de détresse psychologique avec leurs employés. Contrairement à la croyance populaire, ouvrir le dialogue sur cette question délicate n'augmente pas les chances d'y avoir recours, rappelle-t-il. Citation. Lorsque quelqu'un pense à s'enlever la vie, il ne veut pas mourir, il veut arrêter de souffrir. On peut intervenir pour aider la personne et démontrer qu'il y a d'autres moyens qui seront beaucoup plus intéressants, importants pour régler cette souffrance. Fin de citation. Ça doit également aller de pair avec l'implantation d'un réseau de sentinelles, comme le suggère le gouvernement du Québec dans sa Stratégie nationale de la prévention au suicide 2022-2026. Ces employés formés pour reconnaître les signes avant-coureurs sont de puissants atouts à la prévention, puisqu'ils sont aux premières lignes pour observer des changements de comportement chez leurs collègues. Ils peuvent créer un environnement sécuritaire propice aux confidences, mais aussi leur rappeler les ressources mises à leur disposition afin d'apaiser le malheur qui les ronge. Toutefois, ces sentinelles ne sont pas des thérapeutes, nuance Angelo dos Santos Soares. Tous les employeurs qui aspirent à être bienveillants à l'égard de leurs travailleurs devraient également s'intéresser spécifiquement à cette question au moment d'effectuer un diagnostic organisationnel de la santé mentale. Rares sont ceux qui le font, d'après ces observations. Peu ont aussi développé une politique pour réagir en cas de suicide sur le milieu de travail. Celle-ci devrait, par exemple, indiquer qui est responsable de contacter les services d'urgence, de sécuriser l'endroit où la personne s'est enlevée la vie ou encore la manière que la nouvelle sera annoncée au reste de l'équipe. Elle devrait également contenir les numéros de téléphone de ressources d'accompagnement pour les rejoindre rapidement. Toutes les régions administratives comptent des centres de prévention du suicide qui peuvent épauler les entreprises dans leur démarche. Citation. Ce n'est pas dans cette situation de détresse intense qu'on va être capable de réagir d'une bonne manière. Au contraire, on risque de faire beaucoup, beaucoup de gaffes. Fin de citation, dit-il. C'était « Prévenir les suicides grâce au milieu de travail », un texte de Catherine Charon, paru le 30 octobre 2024 dans « Les affaires ».